Je vais vous parler de la dynamique de Dieu ce matin. La dynamique de Dieu, c'est quoi? C'est pour nous une occasion ce matin de se mettre à la place de Dieu. Je te remercie Olivier, tu as fait des gros yeux. Effectivement, c'est très risqué de se mettre à la place de Dieu. Et pourtant, j'assume, mais je vais essayer de nous placer dans cet endroit-là pour essayer de comprendre quelle est la dynamique qu'il y a derrière. Parce qu'on a besoin d'avoir ce changement de perspective, d'avoir cette force qui nous vient d'en haut pour qu'elle habite notre ici-bas un peu. Alors, vous viendrez à la fin du culte, il y a un apéro, si jamais vous pensez que j'ai été trop prétentieux, vous me le direz. Mais je prends le risque ce matin de se placer avec le regard d'en haut, le regard du ciel, pour essayer de déterminer comment Dieu nous voit et avec quelle force il nous voit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est comme un peu dans des temps particuliers. Pas tellement au niveau de l'actualité, mais au niveau des temps de fête que l'on vit. On vient de fêter Pâques, puis Pâques, si on y réfléchit bien, c'est quand même un peu spécial comme fête. On passe de la mort à la vie, on ne sait toujours pas exactement comment, mais il doit bien y avoir quelque chose du ciel qui s'est passé à Pâques. Hein. Puis la semaine prochaine, vous savez ce qu'on fête? L'ascension. Alors là, c'est encore un peu plus évident, quoi. Hein. On passe vraiment de la terre au ciel. Puis dimanche d'après, vous savez ce qu'on fête? La fête des mères, non? Ça, ça n'a jamais... Oui, on sait que c'est quasiment divin, effectivement, les mamans, on le sait. Elles nous voient d'en haut. En fait, la Pentecôte, puis là, c'est carrément le ciel, hein, Régula, qui descend sur la terre. C'est le ciel qui vient habiter notre quotidien. Et avec tout ça, on ne peut pas rester indifférent, les bras ballants. On se dit effectivement que ce n'est pas prétentieux de parler du ciel, de parler de la vision de Dieu, parce que c'est tout simplement le cœur de notre foi chrétienne, c'est que le ciel est venu habiter la terre et que ce ciel descend sur la terre. Et donc, ça nous donne une force extraordinaire. Parce que c'est ça, si vous voulez retenir une chose ce matin, la dynamique, c'est une force. Et ce matin, je crois que j'ai envie de nous transmettre, à moi le premier, cette force qui vient de Dieu. Dynamique, c'est un mot qui vient du grec et puis qui a donné un mot en français qui est assez connu, c'est quoi ? La dynamo ou la dynamite, hein. C'est pas ce qu'on utilise tous les jours, disons, la dynamite. À part si on est suisse-allemand et qu'on a 8 secondes pour foutre que cette part chocolatée, c'est la dynamite. Ah, je vous avais que je vous ai encore des bonnes références publicitaires, ça fait plaisir. Donc, il y a une grande force, une grande puissance, et quand on pense dynamique, on pense à cette force, à cette puissance qui vient d'en haut. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu dans le Frat News, mais on a vécu un cours alpha qui était absolument extraordinaire, comme d'habitude. Et puis, mercredi dernier, c'était la dernière occasion pour nous de se voir, et on a donné un temps de témoignage parce qu'on parlait justement du Saint-Esprit, de cette force qui nous vient d'en haut, savoir ce que ça signifie dans nos vies. Et puis il y a quelqu'un qui nous a donné ce témoignage, il est d'origine équatorienne, il s'appelle Georges, peut-être que certains le connaissent. Et puis il n'avait pas fait un gros témoignage, il ne s'est pas étendu parce que c'était un petit moment de partage, mais il nous a simplement dit, la force de Dieu, pour moi, ça a été que mon cœur a été changé. J'ai essayé des années différents autres moyens pour que mon cœur change, puis il a vraiment besoin d'être changé, parce qu'il a un témoignage qu'on appelle mastoc. Et il a simplement résumé ce témoignage de vie en une seule phrase, la seule personne qui a réussi, c'est la personne du Saint-Esprit, à changer mon cœur. Et ça, si ce n'est pas une force extraordinaire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vous invite à écouter la parole du prophète, dans Ézéchiel. Alors, pour une fois, je vous ai vu, j'ai pris ma Bible papier, pas ma Bible iPhone. Puis comme ça, vous avez tous le temps de venir avec moi
chercher le passage d'Ézéchiel. Parce que c'est beaucoup plus compliqué dans la Bible papier que dans la Bible iPhone. Le temps qu'on y arrive. Alors, c'est au chapitre 36 et c'est à partir du verset 26 que je vais lire ce matin. Je vous mettrai et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettrez en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous affligerai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de vos voies mauvaises et de vos agissements qui n'étaient pas bons. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, déclaration du Seigneur, sachez-le. Ayez honte et soyez confus de vos voies, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes
et on rebâtira sur les ruines. La terre dévastée sera cultivée,
alors qu'elle était dévastée sous les yeux de tous les passants. Et on dira, ce pays dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Ces villes en ruines, dévastées et rasées, sont fortifiées et habitées. Ainsi, les nations qui seront restées autour de vous sauront que c'est moi, le Seigneur Yahvé, qui ai rebâti ce qui avait été rasé et planté ce qui était dévasté. C'est moi, le Seigneur Yahvé, qui ai parlé et qui agirai. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici en quoi je me laisserai encore chercher par la maison d'Israël pour agir à leur égard. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, pareils aux troupeaux qui sont à Jérusalem lors de ces rencontres festives. Ainsi, on saura que je suis le Seigneur Yahvé. Amen.
Qu'est-ce qui frappe dans ce texte? Je pose la question à la volée comme ça. Rien?
Une restauration.
Restauration, ouais.
Je vous purifie,
ouais. J'ai pas compris. Repentance, ouais.
Changement de cœur.
Vous comprenez mieux pourquoi j'ai choisi ce titre pour ce matin? De la dynamique de Dieu et de la force de Dieu. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai lu ce texte, c'est ce côté de dynamique. Il y a énormément de choses qui sont là, qui étaient détruites et qui reviennent à la vie. Des villes qui étaient détruites, qui sont rebâties. Des champs qui étaient dévastés et qui sont de nouveau féconds. Et ça, c'est une force que seul le Seigneur peut donner. C'est une force que seul Dieu, le Dieu de la vie, donner. Et je crois que c'est ça qui nous dit fondamentalement ce texte. Effectivement, après, il y a différentes étapes de repentance, de changement de cœur, de différentes choses. Mais là, il y a une force, comme la force de Pâques, qui est déjà présente dans la parole du prophète. Et c'est intéressant de voir aussi que ça concerne pas seulement les champs et le monde agricole, mais ça concerne aussi nous qui sommes au cœur de la ville, les villes avec tout ce que ça comporte. Ce n'est pas simplement, c'est des fois un peu une image peut-être un peu romantique de Dieu, où on parle beaucoup de la nature, de la création, puis c'est vrai. Mais là, c'est frappant dans ce texte, comme il s'occupe aussi des villes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme il s'occupe et qu'il a à cœur les villes, avec tout ce que ça signifie en termes de reconstruction et d'énergie qui peut être là derrière. Il y a vraiment ces trois caractéristiques, pour moi, qui déterminent la force de Dieu. C'est un, le changement de cœur. Deux, un souffle nouveau. Et trois, la multiplication.
Alors, on va un peu y aller à travers ces trois éléments-là. Vous avez vu qu'il n'y a pas de PowerPoint, alors comme ça, vous avez moi, je fais aussi l'image et le son en même temps. Le changement de cœur, c'est le but de Dieu. Si Dieu il exerce sa force, ce n'est pas pour faire le malin puis montrer qu'il est tout puissant. Si Dieu il exerce sa force, il n'a qu'un seul but, c'est de changer nos cœurs. Même quand Jésus guérissait des malades, qu'il avait cette puissance extraordinaire qui impressionnait les foules, le but c'était quoi, in fine ? C'était que les personnes puissent changer leur cœur et exercer leur foi, leur relation avec lui. C'était ça le but premier de Jésus. Ce n'était pas pour épater la galerie, ce n'était pas pour montrer et convaincre les gens, c'était parce qu'il voulait toucher le cœur de chacune des personnes qu'il a guéri. Une force qui change les cœurs et qui produit aussi comme effet secondaire la guérison. C'est ça que Dieu vaut pour nous, et quand on invoque la puissance de Dieu sur nous, on doit l'invoquer dans ce sens-là. Hein. Donc on prend un peu des risques, les amis. Si on invoque la puissance de Dieu, ce n'est pas pour nous rassurer, pour se dire est-ce qu'il est toujours bien là, puis qu'il existe bien, puis comme ça, ça nous rassure comme chrétiens. Mais c'est parce qu'on est conscient que nos cœurs ont besoin de changer. C'est parce qu'on est conscient qu'il y a une force de transformation qui doit un peu s'exercer continuellement, puis ça, c'est notre croix qu'on porte encore sur cette terre. On n'est pas encore arrivé, un peu peut-être au contraire de ce que dit le chant, là, qu'on y est déjà. On n'y est pas vraiment déjà encore. On est en route là-dessus pour aller dans cette direction-là. Mais il était très beau quand même, Mario, il n'y a aucun souci. Il y va dans ce sens de la nouvelle naissance. Quand on dit quelque chose qui est nouveau, je pense que Dieu, il veut changer nos cœurs pour qu'on devienne avec des nouveaux cœurs, encore et toujours. Et Dieu la dirige vraiment, cette puissance, dans cette direction-là. C'est très, très clair. Deuxièmement, il veut nous donner un souffle nouveau. Et là, c'est une bonne caractéristique pour moi de la puissance de Dieu, et que j'aime beaucoup, c'est le côté mobile. C'est le côté qui change et qui apporte de la nouveauté. Je crois qu'il y a un peu une image qui colle aux églises, c'est l'image plutôt un peu immobile et l'image un peu vieillotte. Peut-être que ça nous colle aussi à la peau comme chrétiens, j'en sais rien. Autant rigoler. Hein. De se dire que la puissance de Dieu, elle s'exerce aussi et surtout à travers un souffle. Ce qui est descendu dans nous, particulièrement à la Côte-Côte, c'est un souffle qui change les choses et qui les rend nouvelles. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi et ma vie de chrétien de se dire que je suis animé par un souffle qui me fait aller là où lui, il décide d'aller? Est-ce que ça me fait un peu peur? Est-ce que ça me dit c'est un peu confus comme truc? Est-ce que moi qui suis bien suisse, qui aime bien les choses planifiées puis un peu carrées, ça va être un peu compliqué à gérer tout ça? Qu'est-ce que ça produit en moi, cette idée de souffle qui déplace des frontières, qui déplace des lignes de force? C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Et pourtant, si nous voulons, nous, prendre en charge cette force que Dieu nous donne, on doit apprendre à être mobile, comme toi, tu es mobile. On doit apprendre à aller dans tous les sens et à aller dans le sens surtout que Dieu veut. Mais ça suppose une ouverture d'esprit, pour le coup, qui est indissociable du changement de cœur. Et puis là, j'aimerais nous encourager, effectivement, parce que ce n'est pas si évident que ça, de suivre les principes, parce qu'on est quand même appelé à suivre les principes de Dieu, qui peuvent paraître carrés, et de conserver cette mobilité, finalement, pour nous ouvrir à Dieu et à l'autre. Et là, on doit conserver un cœur mobile qui est toujours apte au changement. Le souffle, le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à Nicodème quand il vient le voir. On le retrouve ce passage dans Jean. Et c'est très beau de se dire que peut-être qu'on ne va pas savoir exactement pourquoi Dieu me demande telle ou telle chose, pourquoi il m'encourage à aller vers telle ou telle personne. Et pourtant, souvent au fond de nous, on le sait, hein, qu'on doit y aller, qu'on a cette conviction, cette manière dont l'Esprit nous parle. Deuxième caractéristique de la force, et c'est assez paradoxal, c'est un souffle. Troisième caractéristique de la force, c'est la multiplication.
Alors là aussi, je ne sais pas si on est très à l'aise de parler de multiplication dans une église évangélique qui veut être équilibrée. Parce que comme pour la puissance, c'est peut-être quelque chose dont on se méfie. Peut-être parce qu'on a un peu peur de ce qu'on appelle l'évangile la prospérité. On associe souvent les deux, multiplication, prospérité, ça va quand même un peu ensemble. Et puis dans un contexte aussi capitaliste que le nôtre, il faut bien entendre que ces perspectives de multiplication, ce n'est pas si facile que ça à appréhender. Et pourtant, s'il y a un terme qui revient le plus souvent dans ce passage, c'est celui-là. La force de Dieu permet la multiplication. La force de Dieu permet la fécondité. La force de Dieu permet la croissance. Donc, frères et sœurs, on ne doit pas en avoir peur de cette notion-là. On doit plutôt l'accueillir comme une grâce de Dieu. Évidemment, l'écueil, il est grand, comme je l'ai dit, dans une société capitalistique comme la nôtre, de confondre multiplication et profit. Parce que le profit, c'est en vouloir toujours plus. Et la multiplication, c'est accueillir ce que Dieu nous donne. C'est assez différent. Hein? Le profit, c'est se dire, c'est moi qui ai bien travaillé, je mérite mon bonus. La multiplication, c'est accueillir ce que Dieu a prévu pour nous et que lui va faire fructifier. Et c'est assez différent comme notion. Parce que tu peux trimer tout ce que tu veux, et puis peut-être que certains membres du peuple d'Israël, ils n'auront même pas vu le retour d'exil que Ézéchiel annonce. Et pourtant, ils auront été très fidèles dans leur foi, et ils n'auront pas vu cette multiplication. Parce que cette multiplication, elle est promise pour le peuple dans son ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je vous bénirai, je vous multiplierai en tant que peuple, et pas en tant qu'individu qui réussit tout seul dans son coin parce qu'il aura réussi un top au niveau social. Je vous multiplierai en tant que peuple et ça signifie une solidarité entre nous et déjà du temps d'Israël qui est extraordinaire. Et là encore, c'est une différence fondamentale avec le contexte capitaliste dans lequel on est. Je vous multiplierai en tant que peuple et en tant que peuple, on jouira des biens que le Seigneur nous donne. Et je crois qu'il y a un lieu qui est favorable pour vivre sereinement cette multiplication, c'est de cultiver la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, elle va toujours considérer que ce que je reçois, c'est un don de Dieu. Et elle ne va jamais considérer que c'est quelque chose qui m'est dû comme un acquis, comme un salaire après travail. La grâce, ce n'est pas un salaire après travail, hein. La parabole des ouvriers qu'on dit de la dernière heure, où ceux qui arrivent à 8 heures le matin et ceux qui arrivent à 5 heures le soir, ils reçoivent le même salaire, c'est un excellent exemple de la manière dont la force de Dieu s'exerce. Et un excellent exemple dont la multiplication dans le peuple de Dieu s'exerce aussi. Nous, on trouve ça super injuste, et pourtant, c'est l'économie de Dieu. Si on reprend l'histoire du début, si on regarde avec les yeux de Dieu, on doit aller dans cette direction-là. La multiplication, elle peut prendre différentes formes dans nos vies. J'ai pensé à des moments de grâce, des moments d'amitié, des moments de remise en question, des moments de louange communautaire, des moments de partage, de prière. Vous pouvez mettre tous les mots qu'il y a derrière. Si on commence à y être attentif, on se rend compte que la multiplication, c'est une réalité quotidienne dans nos vies. Si on prend le temps simplement avec un regard de reconnaissance, c'est impressionnant de voir tout ce que le Seigneur multiplie chaque jour. Qu'on peut peut-être considérer comme étant normal, hein? Mais ce n'est pas normal. Et si on prend le temps, comme Abraham qui regarde les étoiles, on arrivera, je pense, à intégrer cette notion de force qui implique aussi la multiplication. Et de ne plus avoir trop peur de cette notion, parce qu'on se dira, c'est autant de grâce du Seigneur que le Seigneur me donne. Et je nous laisse cette question pour terminer. Quel est, dans ces trois points, le point qui me parle le plus de la dynamique de Dieu? Est-ce que ce matin, c'est un appel à changer mon cœur? Est-ce que c'est un appel à retrouver une certaine mobilité avec le souffle de l'Esprit qui est là? Ou est-ce que c'est d'accueillir cette notion de multiplication, de la prendre pour ma vie comme autant de signes de la grâce de Dieu? Je vous laisse ces trois questions. Laquelle me parle le plus ce matin? Laquelle est-ce que je prends avec moi aujourd'hui? Le changement de cœur, le souffle, la multiplication, pour que la force du Seigneur soit vraiment avec moi comme avec vous tous. Soyez bénis. Amen.